France Inter.
En Italie, il y a urgence à faire des enfants. Depuis 2010, le taux de fécondité s'effondre littéralement. Un suicide démographique qui se traduit par une baisse de la population. Les Italiens sont aujourd'hui 86 000 de moins que l'an dernier.
L'Italie vit une crise démographique dramatique. On n'y fait plus ou si peu de bébés. 1,24 enfants par femme, dernier rang européen avec l'Espagne. Chez nous, c'est 1,80. Or, ces quelques dixièmes, ces quelques centièmes font une énorme différence. La conséquence, c'est un avenir incertain pour une Italie toujours plus vieille, avec une population qui continue de diminuer, encore moins 2% cette année. En Italie, le nombre de naissances a diminué de près de 30% en 10 ans.
Dans le scénario le plus pessimiste, on peut imaginer que tout va aller de mal en pire. Avec une population italienne qui pourrait être divisée par deux.
Cette crise de la natalité n'a pas de cause unique. Ce sont des emplois précaires, le manque de perspectives ou l'incertitude économique, mais aussi, et ça c'est très propre à l'Italie, l'absence de politique de la famille. Il a fallu attendre le printemps dernier pour voir apparaître des allocations familiales. Autre particularité transalpine, l'absence de crèche.
Il y a toujours d'autres priorités, d'autres choses que vous faites passer en premier. Avant, c'était la famille. Maintenant, c'est la maison, le travail, et les enfants passent après.
Au cours de ce reportage, nous irons à deux extrémités géographiques du pays. Le nord, dans les Alpes italiennes, le sud Tyrol. Il n'y a rien de méditerranéen dans cette partie du pays, on y parle allemand. Et là-bas, on s'inspire du voisin, l'Autriche, où les familles sont choyées. Et à 1000 km de là, la Sardaigne, île située au sud de la Corse, où la natalité est la plus basse du pays, moins d'un enfant par femme. Les défis démographiques y sont vertigineux. Déclin démographique, le caillou dans la botte italienne. C'est un reportage de Bruce de Galzin avec Virginie Lorda à la prise de son.
Interception. Le magazine de reportage de la rédaction de France Inter.
Nous sommes en plein cœur de la Sardaigne, dans les terres, à Orgozolo et ses 4500 habitants, avec une vue magnifique sur la montagne. C'est une petite place. On entend le marché. Il y a aussi une aire de jeu pour enfants, mais on voit tout de suite qu'elle semble un petit peu délabrée. Voilà, hop, et ça c'est une balançoire qui fonctionne pas très très bien. Il y a de l'herbe un peu partout. Là, un toboggan par exemple manque la première marche, donc les enfants doivent sans doute pas venir sur ce toboggan. Mais on voit aussi un baptistère, Jésus, Marie, Joseph, c'est la Sainte Famille, assez présent ici, mais où sont les familles? Pour l'instant, on n'en voit pas beaucoup. Mais ne nous mettons pas en retard, nous avons rendez-vous avec Paolo et sa femme qui habitent juste à côté.
Bonjour Paolo.
Ciao. Avanti.
Virginie, salve.
Maria Antonietta.
Mia moglie Maria.
Ciao.
Buongiorno.
Prego.
Merci de nous accueillir chez vous d'abord, c'est très gentil. Grazie.
Accomodate.
Benissimo.
Est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants dans le village d'Orgozolo? Il y a quand même 4500 habitants. En fait, il y a peu de naissances en Sardaigne. Et peu d'enfants à Orgozolo. Peut-être parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent, pas beaucoup de travail. Les gens ont de moins en moins d'enfants. Nous, on s'est connus il y a 20 ans. À l'époque, je n'avais pas de travail. Et puis j'en ai trouvé un. Puis je me suis fait virer. Nous avons laissé le temps passer parce qu'on voulait être sûr de finir la maison et qu'il y avait d'autres priorités. On voulait des enfants qui se sentent bien. Et petit à petit, on s'est dit que si des enfants arrivaient, on les garderait. Mais on n'en a pas eu. Quel âge vous avez aujourd'hui, tous les deux?
J'ai 45 ans.
Et moi, 53.
À 45 ans, ça veut dire que c'est plus possible, c'est fini?
Non, ce n'est pas comme si c'était fini. Mais ça fait peur à cause des difficultés de la grossesse, de ce qui peut arriver, les complications.
Di paura per quello.
En fait, il y a peu de gens qui ont un enfant à 20 ans. Peut-être parce qu'à cet âge-là, il y a des gens qui étudient encore, d'autres qui pensent à autre chose.
Il y a toujours d'autres priorités, d'autres choses que vous faites passer en premier. Avant, c'était la famille. Maintenant, c'est la maison, le travail, et les enfants passent après. Et puis avec l'âge, finalement, peut-être que l'envie s'estompe. Tu comprends, à 35 ou 40 ans, on n'a plus vraiment envie de changer des couches. On a passé l'âge. On n'y tient plus autant qu'avant. Au début, tu veux des enfants, mais tu ne peux pas te le permettre. Et quand enfin tu t'es réalisé dans la vie, tu n'as plus vraiment envie. Tu veux être un peu plus tranquille et profiter de la vie.
Et est-ce que dans votre entourage aussi à Orgozolo, finalement, il y a peu d'enfants, vos amis, votre famille ont peu d'enfants?
Oui, nous avons des amis qui n'ont pas d'enfants. Et aussi des amis qui n'ont qu'un enfant. Par exemple, j'ai des cousins du côté de ma mère qui sont 5. 3 sont mariés et ils n'ont chacun qu'un seul enfant.
Et on peut peut-être les rencontrer, tes cousins ?
Oui, je pense qu'il y a une de mes cousines qui habite à proximité. On peut y aller si elle a le temps. On peut peut-être lui demander. Je pense que c'est possible.
Parfait, parfait. Bah, si on peut tenter, allons-y.
Andiamo.
Oh, ciao.
Sì, questa è la casa di mia cugina. Vediamo se. Proviamo a suonare il campanello.
Ok, on va voir si elle est là. Ah, ça ouvre déjà. Ecco qua.
Ciao.
Buonasera, bonjour.
Usi il campanello, all'estero. Usa. Perché suona su?
E bonjour.
Salvatore, mia cugina.
Ok, Bruce.
Piacere, Salvatore.
Piacere. Merci beaucoup de nous accueillir chez vous.
Entriamo?
Sì.
Entriamo. Sì. Allora, on rentre. Ecco, una grande casa, eh? C'est une sì. Grande maison.
Perché c'è mia suocera, okay. Abita qui anche lei, quindi noi siamo su. Prego.
Ecco.
Permesso.
Vous étiez une famille nombreuse à l'origine et chacun d'entre vous n'a eu qu'un enfant. Comment ça s'explique?
Oui,
c'est ça, absolument. Je suis tombée enceinte en 93 et puis après le bébé est né en février 94. Et puis un peu plus tard, je suis tombée de nouveau enceinte, mais j'ai perdu le bébé.
Et votre fille, à vous, a eu des enfants?
Non, pas encore.
Mais avant, c'était pas du tout le cas dans vos familles. Vos familles étaient même des familles nombreuses.
Sì, una famiglia numerosa. Mia suocera erano 10 in famiglia.
Oui, une famille nombreuse.
Mia madre.
Ma belle-mère, ils étaient 10. Ma mère, pareil.
Ça veut dire qu'il y a eu vraiment un saut de génération.
È vero.
Oh, non.
È vero.
C'est vrai. Il y a eu un saut de génération. Moi, je suis née en 1968. À mon époque, nous étions environ 100 ou 140 à être nés la même année. Aujourd'hui, il y a 20 ou 30 naissances par an seulement. Il y en a de moins en moins.
Mais c'est vrai que les jeunes aujourd'hui quittent aussi la Sardaigne, émigrent.
Parce qu'ici, ils n'ont pas forcément la possibilité de choisir leur avenir. Parce que cette société ne leur offre pas de travail, ne leur offre pas la vie qu'ils attendent.
Le berger et ses moutons qui traversent la route.
Mmh.
plutôt que d'habitants, parce qu'on n'avait pas croisé une voiture. Nous ne serons pas plus embêtés par les voitures, j'ai l'impression. Direction la capitale donc de la Sardaigne, Cagliari. Pour rencontrer des jeunes et des jeunes, bah, en effet, on les trouve à l'université. Un petit peu de vent, il y a beaucoup de rochers, c'est vraiment la montagne. Vraiment, on est au cœur du pays, on est en train de traverser la Sardaigne. Le paysage n'a rien à voir avec les côtes de la mer émeraude des cartes postales. Non, le cœur de la Sardaigne, c'est assez désertique.
Cherche enfant désespérément. Avec 400 000 naissances en 2020, l'Italie a atteint un plus bas historique. Alors le gouvernement vient de faire voter une mesure spectaculaire. Une allocation simple et systématique.
C'est une bonne initiative pour relancer les naissances. La naissance d'un enfant, c'est toujours une bonne nouvelle. Et nous en avons besoin pour rendre notre nation plus jeune. C'est bien, mais nous avons besoin d'une politique plus favorable envers les familles.
Cette allocation remplacera les différentes mesures adoptées dans les dernières années. Les aides scolaires, les aides à la garde d'enfants. Un guichet unique et des sommes qui seront moins élevées dans les familles plus aisées.
Alors là, je suis à l'université avec plusieurs étudiantes et étudiants.
Je m'appelle Mattia, j'ai 26 ans.
Ilaria, 27 ans.
Et je voudrais comprendre un peu qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette chute de la natalité. Est-ce qu'à 20 ans, 25 ans, 27 ans, est-ce qu'on pense à faire des enfants? Est-ce qu'on pense à avoir des enfants?
Alors, dal mio punto di vista,
mon point de vue, c'est qu'avant de donner naissance à un enfant, j'aimerais avoir un logement pas cher. J'aimerais être complètement installée, avoir commencé à travailler. Pour l'instant, je vis avec un garçon, j'ai du travail, mais je ne me sens pas encore complètement épanouie, professionnellement. Une fois que ce sera fait, je pourrai alors penser à mettre au monde un enfant. Nous vivons dans une période assez difficile. Alors c'est vrai, je me demande si ça vaut la peine de donner naissance à un enfant. Mais j'aimerais bien. Si à 40 ans je ne l'ai pas encore fait, je pense que je ferai une croix dessus. Si à 40 ans, je n'ai pas eu d'enfant pour diverses raisons, que ce soit parce que je n'ai pas pu en avoir ou parce que ce n'est pas encore arrivé, je crois que je déciderai de ne pas en avoir du tout.
À 26 ans, Mattia, vous pensez déjà à avoir un enfant?
Aujourd'hui, je n'y pense pas, non. Entre autres, parce que la société italienne ne nous le permet pas. Moi, j'étudie et je travaille, mais je ne gagne pas assez pour pouvoir penser à avoir un enfant. Je vois ça comme quelque chose de négatif, entre guillemets. Je suppose qu'à partir du moment où tu as un enfant, tu dois lui consacrer tout ton temps, du moins tout ton temps libre. Mais entre les études, le travail et le reste, on n'a aucune idée du temps qui peut rester pour un enfant. C'est déjà difficile pour moi de m'inscrire dans un club de sport, alors comment imaginer m'occuper d'un enfant? Je pense que c'est important d'atteindre d'abord ses objectifs, ceux que j'ai en tête et ceux auxquels je n'ai même pas encore pensé. Mettre au monde un enfant sans avoir atteint ses objectifs, ça pourrait être négatif pour cet enfant. Enfant, qui devra lui aussi se construire en tant que personne dans le futur.
La précarité encore trop répandue décourage les jeunes de construire famille et avenir.
Sergio Mattarella, président de la République italienne, dans son message du 31 décembre 2021.
La forte diminuzione delle nascite.
Cette forte baisse de la natalité
rappresenta oggi uno degli aspetti
est l'un des aspects les plus préoccupants
della nostra società.
De notre société aujourd'hui.
Je m'appelle Luisa Salaris.
Je suis professeur de démographie au département de sciences politiques de l'Université de Cagliari. J'enseigne la démographie, les statistiques, et depuis plusieurs années, je m'occupe des questions liées à la population, la mortalité, la fécondité, les migrations.
Le niveau de fécondité en Italie est aujourd'hui de 1,24, 1,25. Ça signifie donc que chaque femme en moyenne donne naissance à un enfant au cours de sa vie. Alors qu'en Sardaigne, la situation est un peu plus tragique. On est en dessous d'un enfant par femme. C'est l'une des régions où le niveau de fécondité est le plus bas.
En Sardaigne, c'est vraiment la région d'Italie et peut-être même une des régions du monde où l'on fait le moins d'enfants. Mais c'est aussi une région où la population vieillit et où la population est la plus âgée. C'est une double problématique.
Les
deux choses vont forcément ensemble, car une population très âgée est une population où il n'y a pas de jeunes. Et s'il n'y a pas de jeunes, il n'y a pas de naissance. Les deux vont de pair. Et la Sardaigne souffre, comme l'ensemble de l'Italie du Sud, de l'exode d'une partie des habitants. Et en plus de la diminution de la population, c'est aussi pour la Sardaigne comme pour d'autres régions une perte de potentiel de reproduction. Parce que les jeunes qui auraient dû faire des enfants ici s'en vont ailleurs.
Il y a quand même une révolution en Italie avec les allocations familiales. Mais on a l'impression que ça ne fonctionne pas très bien.
Le sentiment, c'est que cette mesure ne fonctionne pas, qu'elle est très lourde d'un point de vue bureaucratique. Et en fait, le soutien apporté aux familles est très limité par rapport aux dépenses qu'elles engagent réellement. Le babysitting, le sport, bref, toutes les dépenses liées à l'éducation d'un enfant. Ça coûte vraiment cher. Et ça conduit, dans certains cas, les femmes à abandonner leur emploi pour pouvoir s'occuper de leurs enfants. Parce que sinon, elles mettraient l'intégralité de leur salaire pour payer une babysitter. Lorsqu'il n'y a pas de grands-parents pour servir de parachute ou de bouée de sauvetage, ça crée un dilemme. Et beaucoup de femmes doivent choisir entre être mère et travailler.
Ces allocations familiales, appelées chèques uniques, sont comprises entre 50 et 175 euros par mois, selon les revenus du foyer. Un bonus de 100 euros est prévu pour les familles nombreuses au-delà de 4 enfants.
Est-ce que cette chute dramatique, vous parlez de tragédie, de la natalité, est prise au sérieux ? Et par qui est-elle prise au sérieux ?
Ça, c'est une bonne question. Au départ, ça devrait être la politique qui s'occupe des problèmes familiaux. C'est une question de confiance, et la confiance doit venir des institutions. Les familles ne peuvent pas faire face seules aux défis quotidiens, qu'ils soient économiques, sociaux ou culturels. Elles ne peuvent pas garantir seules un avenir à leurs propres enfants. Donc l'école, les services, l'église, les administrateurs, même dans les petites communes, tout le monde peut faire quelque chose. Il est certain que les mesures à prendre partent d'en haut. Elles peuvent apporter un soutien et donner une orientation générale. Mais même au niveau provincial et régional, les administrateurs ont une marge de manœuvre pour intervenir sur ces problématiques.
Et alors pourquoi ils n'interviennent pas ? Selon vous, il n'y a pas de prise de conscience politique ?
Investir dans la famille, c'est un investissement sur le long terme. Et politiquement, mais c'est mon avis, ça ne rapporte rien à court terme.
Est-ce que l'on peut se projeter ? L'Istat, qui est l'INSEE local en Italie, est très alarmiste sur l'avenir.
Je ne pense pas que le point de vue de ceux qui divulguent les statistiques soit alarmiste. On les connaît, ces statistiques, depuis des décennies. Dans le scénario le plus pessimiste, on peut imaginer que tout va aller de mal en pire. Avec une population italienne qui pourrait être divisée par deux. Évidemment, d'imaginer ce scénario-là, ça sert aussi à réveiller les consciences. À dire attention, c'est un signal d'alarme. On doit renverser la vapeur.
Quand Bruce
Auguste Galzin parle de révolution des allocations, c'est parce qu'il a fallu attendre mars 2022 pour voir cette aide, si familière en France, apparaître en Italie. L'actuelle présidente du Conseil, Giorgia Meloni, a fait de la famille l'un de ses thèmes de prédilection. Elle a même créé un ministère dédié aux questions familiales. Les conséquences de cet inexorable déclin touchent tous les pans de la société. Des écoles ferment, le système de santé est saturé par une population de plus en plus âgée. Nous retrouvons Bruce de Galzin et Virginie Lorda, toujours en Sardaigne.
Interception. Sur France Inter.
Nous avons rendez-vous avec Gianfranca Salvai, qui est syndicaliste et qui défend l'hôpital, le seul hôpital de la zone. Nous sommes en Italie, nous avons rendez-vous pour un café.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Entriamo pure. Prendiamo un caffè, se volete, ci accogliamo.
Très bien, un petit café.
Quanti caffè devo fare?
Tre caffè.
Tre caffè, qui,
Gianfranca, est-ce que vous pourriez nous expliquer quelle est la situation de la santé à Sorgono ?
Alors, Sorgono, c'est une ville de montagne. Nous sommes dans la zone habitée du centre de la Sardaigne, vraiment au centre géographique de l'île. Nous sommes donc loin de tous les pôles provinciaux où se trouvent les hôpitaux les plus importants. L'hôpital de Sorgono dessert un bassin de population de 20 000 personnes, 20 000 patients potentiels. Parce qu'il y a 13 villages dans la communauté montagnarde où nous vivons. Et tous relèvent de l'hôpital de Sorgono. Depuis 50 ans, on peut dire que l'ensemble de la population a bien été prise en charge. L'hôpital est juste à côté, là. Si vous voulez, je vous accompagne, je vous montre où il se trouve.
Eh bien, on y va.
Ici, on dit bonjour tout le temps. Bonjour, bonjour, un peu comme au village, on fait toujours ça.
Ah oui, en effet, on n'est pas très loin, je vois l'hôpital déjà. Là, on est quoi, à peu près à 200 mètres et on aperçoit une petite cahute devant l'hôpital avec quelques banderoles, on n'arrive pas encore à lire.
Oui, c'est là que se rassemble un comité de citoyens qui s'est formé de manière spontanée il y a presque deux ans. Avec des personnes qui protestent contre le manque de services de santé. Malheureusement, notre hôpital souffre depuis plusieurs années de coupes économiques très lourdes qui se traduisent ensuite par la suppression de lits, le manque de personnel, etc. Et il y a plus de 10 ans, par exemple, la première coupe budgétaire a précipité la fermeture de la salle de naissance. Et ça, c'est dramatique parce que ça veut dire que les mères qui attendent un bébé doivent parcourir au moins 80 km en voiture pour aller accoucher. C'est l'un des nombreux facteurs qui influencent le choix des gens de partir d'ici ou bien de rester et fonder une famille.
Alors nous voici devant, la cahute en bois qui a été donc construite il y a deux ans. Alors il y a aussi beaucoup de banderoles un peu partout que je vais essayer de traduire un peu. Nous voulons de vraies réponses, la santé pour tous.
Venez, on va entrer. Je voudrais vous présenter un médecin qui se bat avec nous. Il a travaillé de nombreuses années ici à l'hôpital de Sorgono. C'est Manuel Tanda.
Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous dire en quoi précisément ici la chute de la natalité a eu un impact sur cet hôpital ?
La baisse de la natalité a vraiment eu une influence. Parce qu'aujourd'hui, en matière de santé, les techniciens du ministère et les décideurs politiques ne regardent que les chiffres, le nombre d'habitants. Mais il faut aussi tenir compte du fait que la plupart des gens dans cette région sont des personnes âgées. Or, les personnes âgées sont celles qui ont le plus recours aux soins de santé, et ce n'est pas pris en compte. La tendance désormais, c'est de renforcer uniquement les grands hôpitaux d'excellence. Mais selon moi, la majorité des patients sont des personnes âgées avec plusieurs pathologies qui ne nécessitent pas d'installation hautement spécialisée pour être traitées. Un hôpital bien équipé comme celui-ci s'y prête bien s'il conserve de bons équipements, mais ces dernières années, pour des raisons de réduction de dépenses de santé, il a été progressivement désarmé en termes de ressources technologiques et de ressources humaines.
Vous, comme dirigeant, vous avez été un des dirigeants de cet hôpital il n'y a pas si longtemps que ça. Comment vous avez vécu vos dernières années ?
Ça a été dramatique. Parce qu'après avoir travaillé tant d'années et essayé d'améliorer les choses, voir ce démantèlement progressif de l'hôpital, pour moi, c'est vraiment grave. C'est l'unique raison pour laquelle je suis resté membre du syndicat. Et je fais aussi partie des comités pour essayer de sauvegarder un peu le système national de santé et les soins de santé dans les zones périphériques comme celle-ci.
Gianfranca, il est possible peut-être d'inverser les choses, selon vous, de transformer ce cercle vicieux où les gens partent, les gens ne sont plus soignés, en cercle vertueux ?
Io penso che sì.
Je pense que oui, s'il y a des investissements positifs qui encouragent les gens à rester ici, là où ils sont nés. C'est un cercle vertueux qui peut être amorcé. L'investissement est nécessaire car il produit ensuite du travail, de la stabilité. Donc il faut enclencher ce cercle vertueux, oui, absolument. Et si les gens ont des services publics, ils resteront ici pour fonder une famille. Et ils feront des enfants, c'est certain. N'oublions pas que même si on se bat pour l'hôpital public, il y a aussi le problème de l'école, l'un des services publics les plus malmenés d'Italie.
L'école, justement, en effet, c'est un autre aspect, une autre conséquence concrète de cette chute de la natalité. On ferme aussi des classes en Sardaigne. Et là, nous avons rendez-vous avec un professeur, avec un dirigeant scolaire. Alors un peu plus loin, nous allons quitter le cœur de la Sardaigne et direction cette fois-ci le littoral ouest du côté de la province d'Oristano.
Le pape François, lors de l'audience générale, le 5 janvier 2022.
De nombreux couples préfèrent ne plus faire d'enfants ou alors un seul. C'est un drame. Nous devons nous ressaisir pour vaincre cet hiver démographique qui met à mal nos familles, notre pays, notre avenir.
Nous voici dans l'école de Siapiccia et Siamana, deux communes de 600-700 habitants. Pourquoi nous sommes ici ? Parce qu'il n'y a plus qu'une classe. En Italie, l'an prochain, il y aura 130 000 élèves en moins. Dans 10 ans, pour le seul primaire, ce sera 1 million d'élèves en moins. Nous avons rendez-vous avec Giuseppe Scarpa. C'est lui le responsable des écoles des 9 communes alentour.
Nous voici donc dans l'école primaire et élémentaire. Il y a très peu d'élèves, car c'est une zone où il n'y a plus d'enfants. Il n'y en a que 18. L'année dernière, nous en avons eu un peu plus, mais pas plus d'une vingtaine. Ils ont entre 6 et 10 ans. Par conséquent, on a dû mettre en place ce que l'on appelle la classe multiniveau. On forme une seule classe avec des enfants de tous âges, du CP au CM2. C'est un travail très particulier pour les enseignants. Ils doivent gérer des enfants qui n'ont pas les mêmes besoins.
Entre, par exemple, ceux qui apprennent à lire et à écrire,
quelli di quinta che si stanno per esempio preparando per fare il salto per la scuola secondaria.
Cette classe aujourd'hui de 18 élèves, qu'en sera-t-il l'année prochaine?
In un futuro non troppo lontano,
dans un avenir pas très lointain,
4-5 anni,
je pense dans 4 ou 5 ans,
la possibilità di chiusura,
cette école risque de fermer.
Perché i bambini sono davvero
car il y a très peu d'enfants.
Per l'anno prossimo, credo che
pour l'année prochaine, je pense que ça tiendra encore
di
sous cette forme.
Però è destinata negli anni futuri.
Mais la classe multiniveau est vouée à disparaître dans les années à venir.
Signora Margherita, venga, vi presento la signora Margherita che è la nostra, è un
piacere,
po' la memoria storica della nostra scuola.
Piacere, Margherita.
Bonjour, Margherita. La mémoire historique de cette école, vous habitez juste en face, et ça fait combien de temps que vous êtes installée ici?
40
ans. Ça fait 40 ans.
43 ans.
43 ans, pour être précise.
Et quand vous travaillez ici, combien y avait-il d'élèves?
La mémoire,
s'en va avec la vieillesse. Mais je dirais qu'il y avait 5 classes avec 15 à 20 enfants par classe.
Donc il y avait environ 80 élèves, peut-être une centaine, et aujourd'hui il n'y en a donc plus que 18. Qu'est-ce que ça représente pour vous?
Mi ha dato una brutta impressione oggi vedere.
Ça me fait mal de voir si peu d'enfants.
Che io mi ricordo quando li portavamo fuori per la
ricreazione. Je me souviens à l'époque. Quand sonnait la récréation, la place était pleine d'enfants qui jouaient et qui s'amusaient. Je jouais aussi au foot avec eux. J'ai tout fait dans cette école.
Maintenant, c'est beaucoup plus silencieux. On peut même entendre le bruit des oiseaux.
Voir cette école fermée, non. Je l'ai vue naître. Et la voir fermée, non. Je n'aimerais pas. Ça serait un coup de poignard dans le cœur pour moi de fermer cette école que j'ai vue naître.
Direction le nord de l'Italie, frontalier de l'Autriche, nous sommes au sud Tyrol, précisément dans la ville de Bolzano. Ici, la langue dominante est l'allemand. Dans les paysages des Alpes italiennes, l'influence n'est clairement pas latine. Longtemps, le sud Tyrol a été la seule province du pays avec un solde des naissances positif. Mais depuis cette année, même Bolzano est rattrapé par l'hiver démographique italien, malgré des dispositifs d'aide aux familles, malgré un éventail d'une rare richesse pour la garde d'enfants. Bruce De Galzin et Virginie Lorda sont allés se rendre compte de l'efficacité de l'un de ces dispositifs, c'est l'équivalent de nos assistantes maternelles, mais qui n'existe pas en Italie, sauf précisément dans cette province du Nord.
France Inter, Interception.
Good morning.
Bonjour Sonia, buongiorno.
Benvenuti a casa nostra.
Grazie Virginie. Sonia.
Sonia.
Ottimo. Vous gardez combien d'enfants?
5,
un groupe de 5. En même temps, c'est le maximum. Et comme nous sommes très demandés, c'est toujours plein. Quand j'ai commencé en 2016, il n'y avait pas autant de demandes. Mais au fil des années, on voit que le concept de Tagesmutter s'est imposé. C'est une solution plébiscitée par les parents parce que c'est un peu différent de la garderie. Je dis toujours que nous sommes entre guillemets mais les grands-parents modernes. Parce qu'avant, en Italie, il y avait toujours la famille, la grand-mère, l'arrière-grand-mère qui s'occupait des enfants. Maintenant, ça n'existe plus parce que les femmes doivent travailler jusqu'à 67 ans. Elles n'ont plus le temps. Si nous existons, c'est parce que nous sommes flexibles. On peut discuter avec nous, les nounous, et changer les horaires en fonction des besoins. On est ainsi plus à même de répondre aux besoins des parents.
Même la manière dont on vous appelle, en Italie, on vous appelle Tagesmutter, c'est de l'allemand. Ça veut dire qu'il y a un modèle derrière.
Dovreste dire mamma odierna.
On devrait même dire la maman du quotidien. Le concept original vient d'Allemagne et d'Autriche. Là-bas, ça fait longtemps qu'ils font garder les jeunes enfants de 0 à 3 ans. Ici, on le fait maintenant dans le Tyrol du Sud et dans le Trento, mais dans le sud de l'Italie, ça n'existe pas. Il n'y a que des babysitters. Moi, pour être Tagesmutter, j'ai dû faire une formation de 2 ans. Et chaque année, je suis une formation complémentaire.
Hello, guten Morgen. Salve. Chi mai nos
salves?
Bonjour.
Bonjour. Alors, vous êtes la maman de ces deux enfants. Lei è la madre dei due, eh?
Sì, dei due piccolini, sì.
Sì.
Pour
moi, c'est très important parce que je laisse les enfants et je sais qu'ils sont entre de bonnes mains, en sécurité. Et donc, je pars travailler sereinement. J'ai l'esprit tranquille. Je sais qu'ils sont ici en train de jouer, ils s'amusent beaucoup. Alors, c'est plus facile d'aller au travail.
Jusqu'à quel âge vous pourrez laisser vos deux enfants chez la nounou ?
Gabriel, en septembre, commence la maternelle, donc je pense que jusqu'à la fin du mois d'août, puis ce sera fini. En revanche, Mira reviendra ici.
Quelqu'un d'autre sonne, décidément. Il y a un monde fou qui arrive chez Sonia. Et voilà un quatrième enfant.
Elle
est presque de la famille. Parce que c'est le troisième enfant qu'elle me confie. C'est la famille intégrée.
Arrive subito.
Pourquoi c'est si important d'avoir une Tagesmutter ?
Moi, je suis indépendante. J'ai une entreprise de près de 70 employés. Et je ne peux pas me permettre de rester 3 ans à la maison avec les enfants. C'était essentiel pour moi de trouver quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance. J'ai confié immédiatement mes bébés à Sonia, tous les trois, dès l'âge de 6 mois. Je savais qu'ils allaient bien parce que j'avais un contact direct avec elle.
Vous vous êtes jamais dit, ça va être difficile de concilier mon entreprise, les 3 enfants, ça va coûter de l'argent?
Oui, bien sûr, ce sont des questions qui se posent vraiment en famille. Mon mari a aussi sa propre entreprise. Et nous avons donc des contraintes des deux côtés. En fait, si je n'avais pas été certaine d'avoir quelqu'un pour s'occuper de mes enfants pendant mes heures de travail, j'aurais certainement dû faire un choix, soit mes enfants, soit mon entreprise. Ça veut dire que j'aurais peut-être dû embaucher quelqu'un pour faire mon travail et ça n'aurait plus été vraiment mon entreprise.
Voici dans l'ascenseur du palais de la province de Bolzano, de la province autonome. Nous avons rendez-vous avec l'assesseur à la famille, Valtraud Digg. L'assesseur à la famille, c'est elle qui est en charge de la politique familiale de la province.
Salve, bonjour, buonasera, ben arrivato qua a Bolzano.
Bonjour, bienvenue à Bolzano.
J'ai envie de vous demander tout de suite s'il y a une recette, est-ce qu'il y a une potion magique dans la province autonome de Bolzano, parce que vous êtes la seule province d'Italie qui fait autant d'enfants.
Sarebbe una bellissima cosa,
ce serait super,
non è così, cioè,
mais ce n'est pas le cas.
Una, più pilastri,
notre politique repose
una
sur plusieurs piliers.
Abitative. Che adesso anche attualmente
d'abord, notre politique du logement, qui connaît quelques difficultés en ce moment avec la hausse des prix un peu partout. Le deuxième point, c'est la stabilité
economica.
Qui chez nous aussi d'ailleurs est compliquée,
et ça c'est
à cause de l'inflation très élevée.
Et la terza cosa,
et le troisième pilier, c'est vraiment de permettre de tout concilier.
Tempi,
des temps de
famiglia,
vie,
tempi di lavoro,
des temps en famille,
et una
des temps de travail.
Che siamo anche molto,
c'est une question de culture. Nous sommes assez traditionnalistes et nous considérons la famille comme un élément positif dans la vie d'une personne.
Ce qui fait la différence ici, c'est le nombre de crèches, le nombre de microstructures même. Comment a évolué le nombre de ces structures ces 10 dernières années?
Nous avons 3 types de services pour la petite enfance. D'abord, il y a la
Tagesmutter.
Il y a actuellement plus de 250 nounous qui peuvent accueillir des enfants à leur domicile. Jusqu'à 5 enfants, 40 heures par semaine.
Circa 40 ore alla settimana. Poi abbiamo le
microstrutture. Ensuite, nous avons les microstructures d'accueil.
2009,
en 2009, nous en avions 37 sur le territoire. Aujourd'hui, il y en a plus de 110.
La politica s'impegne
nous avons
così,
engagé avec les municipalités
comuni,
une politique de création d'un vaste réseau de services de la petite enfance.
Le
troisième service, enfin, c'est la crèche, qui est structurée un peu comme le jardin d'enfants, de 3 à 6 ans. Et nous avons aussi des crèches ou même des micro-structures d'entreprise.
Que prend en charge la province pour aider à la garde d'enfants? Est-ce qu'il y a des allocations familiales? Est-ce qu'il y a des prises en charge spécifiques?
Nous avons mis en place ces allocations familiales dès 2008. L'État, lui, n'a commencé qu'en 2022. Si on veut aider les familles, il faut une volonté politique forte. Par exemple, ici, nous accordons une allocation de 200 euros par mois à tous ceux qui ont des enfants âgés de 0 à 3 ans. Et nous accordons une aide qui va un peu plus loin, aide qui est désormais complétée par l'allocation de l'État. De sorte que chaque famille, et en particulier celles qui ont de faibles revenus, reçoivent davantage encore. Pour donner un exemple, le coût d'une nounou pour une famille commence au plus bas à 90 centimes de l'heure et va jusqu'à un maximum de 3,65 euros de l'heure.
Alors, est-ce que d'autres régions d'Italie sont venues vous demander des conseils?
On nous observe un peu, mais on regarde aussi les autres, surtout en France. En fait, la France a déjà mis en place des politiques très actives. Et je vois un autre point important, c'est l'intégration. Cela devient également pour nous une question cruciale, l'intégration, en particulier pour la deuxième génération qui s'insère dans le monde de la formation, le monde du travail, et aussi dans la culture. Je pense que les défis sont toujours au-delà des frontières. Il faut les relever au niveau européen et pas tout seul.
Merci beaucoup.
On va aller voir si l'intégration dont on vient de parler peut fonctionner en Italie. Le patronat est très demandeur, a besoin de main-d'œuvre. Alors nous avons rendez-vous avec Antonietta Campesato. Elle a créé son entreprise il y a 42 ans maintenant, dans la banlieue industrielle de Vicenza. C'est aussi le nord industriel de l'Italie, en Vénétie.
Je suis Antonietta Campesato, propriétaire de cette entreprise de nettoyage, une entreprise qui a vu le jour il y a 42 ans. J'ai commencé toute seule, puis j'ai progressivement élargi mes frontières. Nous sommes environ 90 personnes.
Lui è il mio socio.
C'est mon associé.
C'est votre associé?
Mais bon.
Enchanté, Nebo.
Italien, alors vous êtes italien?
Non, bosniaco.
Bosniaque.
Et vous travaillez ici depuis longtemps?
13 ans.
Depuis 13 ans.
Combien vous avez d'employés étrangers dans votre entreprise?
Tutti di provenienza diversa.
Nous sommes tous issus de pays différents.
Ci sono serbi.
Il y a des Serbes.
Ci sono rumeni.
Des Roumains.
Ci sono algerini.
Des Algériens.
Ci sono guinéens.
Des Guinéens.
C'è Marocco,
des Marocains.
Nigeria,
des Nigérians.
Costa
des Ivoiriens.
Pérou.
Et des Péruviens.
Polonia. Abbiamo anche italiane.
Nous avons aussi des Italiens. Mais je dirais 80% sont étrangers.
L'immigration, selon vous, peut-être une chance pour l'Italie.
Potrebbe essere,
c'est possible,
secondo me,
et à mon avis, c'est une chance.
Perché lo vedo anche nel
Je le vois dans mon entreprise.
Io lo dico sempre a tutti
Je
miei
le dis toujours à tous mes employés.
Perché a me non piace chiamare
enfin, je n'aime pas les appeler
non
des employés, j'aime les appeler mes filles et mes garçons.
Le mie ragazze e i miei ragazzi, se io non li
Je leur dis que s'ils n'avaient pas été là à l'instant où ils sont arrivés, j'aurais mis la clé sous la porte. Camara, viens aussi, je vais te donner l'aspirateur et le matériel.
Camara è guinea ed è qui da 4 anni con noi.
Et alors, et Camara est donc guinée, donc vous parlez aussi français.
Oui.
Quand vous êtes arrivé à Vicenza, ça a été facile de trouver du travail ou ça a été difficile de trouver du travail?
Au début, c'était un peu difficile, franchement dit. Tu dois t'inscrire dans l'information. Il faut apprendre la langue d'abord avant de commencer le travail. Là où j'ai fait formation de magasinier. Et après aussi, j'ai fait soudeur. Après ça, j'ai cherché travail. Je remercie la dame qui m'a aidé.
Nous comptons beaucoup sur eux. Et ils s'intègrent bien. Et s'ils s'intègrent bien, nous ouvrons les portes parce que cela doit aller ensemble. Nous ouvrons les portes et ils s'intègrent.
Ce que vous êtes en train de me dire, Antonietta, c'est que ce n'est pas facile et qu'aujourd'hui, certains Italiens ne sont pas prêts à accepter cette immigration.
Nous avons eu des clients chez qui nous allions tôt le matin, avant l'ouverture du bureau. Ils ne connaissaient pas nos employés, peut-être juste leur prénom. L'une qui s'appelle Franca, l'autre Sammy, l'autre Sharon. Ils connaissaient leur nom sans les avoir vus. Eh bien, la première fois que l'un des clients a vu qu'il s'agissait d'une Africaine, il a été choqué et il m'a dit « Mais est-ce que c'est elle qui travaille chez nous ?» J'ai dit « Oui !» Il y a un problème ?
Non,
me dit-il. Mais si vous changez de personne, ça ira mieux. J'ai dit, d'accord, pas de problème, changeons de personne. Je l'ai changé deux jours, puis j'ai replacé la même fille et je lui ai dit de venir une demi-heure plus tôt pour qu'elle ne croise plus le client en question.
Donc le racisme aujourd'hui est encore présent ?
Oh oui, oui, malheureusement. Si nous voulons reconstruire l'Italie et reconstruire une Italie bonne, saine, avec des principes sains, comme ceux qu'avaient nos grands-parents et nos parents, nous devons nous retrousser les manches et travailler non seulement avec les bras, mais avec la tête. Avec la tête.
Déclin démographique, le caillou dans la botte italienne. C'était un reportage de Bruce de Galzin, notre correspondant permanent à Rome, avec Virginie Lorda à la prise de son. Réalisation Jérôme Chélius, assisté de Martine Messonnier, mixage d'Ophar Guéride. Vous pouvez retrouver d'ores et déjà cette émission sur le site de France Inter.